Vous écoutez
RMC. RMC. Apolline Matin.
Le journal de Quentin Vinet, bonjour Quentin.
Bonjour Apolline, bonjour à tous. Le débat sur les réseaux sociaux, Emmanuel Macron veut les interdire aux moins de 15 ans. Une proposition de loi arrive dès aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Un procès inédit qui commence à Paris. L'ancien sénateur Joël Guerriau jugé pour tentative d'agression sexuelle sur la députée Sandrine Josso. C'est RMC qui vous a révélé cette affaire. Et la tension, vous verrez, qui ne retombe pas aux États-Unis dans la ville de Minneapolis après la mort d'un homme tué par la police fédérale durant le week-end.
Emmanuel Macron veut que ça aille vite.
Oui, le président a annoncé durant le week-end le lancement d'une procédure accélérée pour interdire les réseaux sociaux aux moins de 15 ans dès la rentrée de septembre via une proposition de loi qui sera examinée à partir d'aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Alors, le texte dit qu'il faudra prouver son âge en envoyant un document d'identité à un serveur pour pouvoir s'inscrire à l'avenir sur un réseau social. Et bien voilà ce qu'en pensent parents et enfants avec Louise Salé pour RMC.
Pour ces collégiens de 13 et 14 ans, l'idée de supprimer leur compte sur TikTok ou Instagram est difficilement envisageable.
Souvent, quand on a fini les devoirs, qu'on est fatigué, ça détend, ça déstresse et voilà. J'aimerais pas qu'on l'interdise.
Moi, je trouve que c'est un peu abusé parce que ça va, je sais me contrôler. Quand il faut s'arrêter, il faut s'arrêter.
On trouve toujours des manières en fait d'avoir les réseaux sociaux, donc ça sert pas à grand chose.
Beaucoup anticipent en effet une loi peu applicable comme Lola, 13 ans, qui trouve quand même l'idée intéressante.
C'est sûr qu'il y en aura qui frauderont, mais je pense qu'il y aura aussi beaucoup de gens honnêtes qui vont attendre 15 ans. Moi, j'ai pas Snapchat ni quoi que ce soit, et je vis très bien sans.
Pour les parents, cette loi serait aussi un argument de plus incontestable face à l'insistance de leurs enfants, Volsi et mère d'une ado de 13 ans.
Bah, c'est une très bonne idée. Je pense que c'est un repère. Les problèmes de harcèlement viennent souvent des réseaux sociaux. Toutes ces histoires peuvent quand même nous convaincre que c'est pas une bonne idée, qu'ils sont trop jeunes.
Le texte aujourd'hui examiné à l'Assemblée comprend également une mesure pour interdire le portable dans l'enceinte du lycée.
Tiens, et à l'heure du tout numérique, il y a cette nouvelle affaire embarrassante de vol de données à la Fédération française de chasseurs qui dit avoir été victime d'une cyberattaque la semaine dernière, comme il y a quelques mois, on s'en souvient, à la Fédération de tir Léonie Guilbeault.
Oui, des noms, prénoms, numéros de téléphone et adresses postales de chasseurs seraient en vente sur le dark web depuis mercredi. C'est l'interface en ligne utilisée par les adhérents pour gérer la validation de leur permis de chasse qui a été piratée. La Fédération nationale des chasseurs précise qu'aucune donnée bancaire ou liée à la détention d'armes n'est concernée par l'incident. Mais Corinne Henin, experte en cybersécurité, alerte. Ces données peuvent tout de même être utilisées par les malfaiteurs.
Pour trouver des endroits ou cambrioler pour aller récupérer des armes. Le raccourci est vite fait. Ces personnes ont du matériel pour faire du tir et donc ont des armes chez eux. Le fait d'avoir les adresses des personnes, ça va faire des cibles privilégiées pour ce genre de cambriolage.
C'est ce qui s'est passé après le piratage de la Fédération française de tir. En octobre dernier, plusieurs cambriolages à Nice, Lyon, Paris et Limoges ont suivi la fuite des adresses des licenciés. Une plainte a été déposée par la Fédération des chasseurs et c'est la cellule cyber de la gendarmerie qui est en charge de l'enquête.
C'est un procès inédit qui s'ouvre aujourd'hui à Paris et pour deux jours au tribunal correctionnel. L'ancien sénateur Joël Guerriau va être jugé pour tentative d'agression sexuelle sous soumission chimique de la députée Sandrine Josso. Affaire qui remonte à novembre 2023 et que vous aviez révélé à l'époque, Guillaume Bier.
Oui, du jamais vu entre deux parlementaires. Ce soir-là, Joël Guerriau invite Sandrine Josso à venir fêter sa réélection dans son logement parisien. Mais sur place, elle découvre qu'elle est la seule convive et que le champagne a un goût bizarre. Bouffée de chaleur, palpitations, nausées. La députée se sent très mal face au sénateur qui lui fait des tours de magie, joue avec l'intensité de la lumière et manipule un petit sachet en cuisine. Sandrine Josso parvient à s'enfuir. Les analyses prouvent qu'elle a ingéré de l'ecstasy et une forte dose de MDMA, des drogues de synthèse. Elle est donc persuadée que Joël Guerriau l'a droguée à son insu pour la violer. Ce que l'ancien sénateur a toujours contesté, il plaide l'inadvertance d'une flûte à champagne mal nettoyée et assure avoir acheté cette drogue pour lui, car il était déprimé, notamment après, je cite, « la mort de son chat ».
8h04 sur RMC, ça ne finit jamais en Bretagne.
À nouveau, trois départements, nous dit Géraldine, en vigilance orange pour les risques d'inondation encore à partir de ce soir en Ille-et-Vilaine, dans le Finistère et le Morbihan, comme ici, écoutez, à Mal-les-Trois, près de Ploërmel, où cet habitant, Philippe, a l'impression de ne pas voir le bout du tunnel.
Ça escale toutes les maisons, faut nettoyer, puis après ça revient, c'est répété souvent, quoi. C'est usant pour ceux qui y habitent, c'est vrai, hein. C'est stressant, c'est... Voilà.
Et vous allez souvent voir du coup le canal, vous surveillez?
Souvent, une fois peut-être par jour, oui. Enfin, on peut faire que ça, hein, regarder, mais bon, on peut rien faire. Le feu, tu peux l'éteindre, mais la flotte, tu peux pas l'arrêter.
Et alors, les États-Unis, eux, sont balayés en ce moment par la plus grosse tempête polaire depuis 40 ans avec des images impressionnantes de neige à New York. Il y a au moins 10 morts, une vingtaine d'États qui ont décrété l'état d'urgence. Malgré le froid, il y avait encore une manifestation des centaines d'Américains hier dans la ville de Minneapolis après la mort d'un homme de 37 ans tué par la police fédérale durant le week-end, deux semaines après une autre affaire impliquant la police de l'immigration cette fois. Police qui est plus que jamais renforcée depuis que Donald Trump est de retour à la Maison-Blanche. C'est ce que nous dit ce Français, écoutez-le, habitant de Minneapolis.
Effectivement, là, on a passé un cap. Malheureusement, ces deux personnes tuées, c'est la concrétisation de l'impunité, du manque de formation et de la carte blanche que ces agents fédéraux ont. J'ai plus la confiance qu'il y a un état de droit et qu'il y a quelqu'un qui me protège quelque part. En me disant, si je fais rien de mal et si je provoque personne, il devrait rien m'arriver. Et cette assurance, je l'ai plus. Dans les zones concernées, dans les quartiers assez cosmopolites, plutôt sympas d'habitude. Là, certaines écoles, la semaine dernière, ont fermé quelques jours. Certains restaurants, certains commerces, pour pas mettre en danger leurs élèves, pour mettre en danger leurs employés, les gens se sentent plus en sécurité chez eux.
Alors Donald Trump impute cette dernière affaire à Minneapolis aux démocrates. Les anciens présidents Clinton et Obama appellent les Américains au sursaut. Le foot, c'est la crise qui continue à Lille, battu 4-1 par Strasbourg hier soir pour la fin de la 19e journée de Ligue 1. C'est la 5e défaite d'affilée pour les Lillois. Le foot, c'est aussi ce qui se passe, écoutez, dans les divisions amateurs. On constate que désormais des arbitres portent des caméras piétons, comme les policiers, en fait, pour lutter contre les violences et les menaces dont ils font parfois l'objet. Mais on parle là de catégorie amateur, comme hier, lors d'un match de challenge départemental à Saint-Jacques-de-la-Lande. C'est près de Rennes, Kevin Morand.
Oui, et dans le vestiaire avant le match, l'arbitre sensibilise les deux capitaines.
C'est lui qui refuse d'être filmé, pas être sur la feuille des matchs. C'est qui est pour la prévention, pour la sécurité.
Le match a été jugé à risque par le district d'Ille-et-Vilaine. L'arbitre Aliou Dieng porte donc au niveau du torse une caméra embarquée.
Et pour la lancer, j'ai juste appuyé sur le bouton. Et là, du coup, ça enregistre. Si je vois que le match commence à être compliqué, du coup, je vais lancer la caméra pour me protéger et pour protéger les joueurs aussi.
La rencontre entre Saint-Jacques-de-la-Lande et Chartres-de-Bretagne s'est finalement déroulée sereinement.
Effectivement, je pense que c'est grâce à la caméra que ça a été un match tranquille.
Le capitaine de Chartres, Richard Leget, salue cette expérimentation.
Je pense que c'est très très bien. On peut voir dans certains clubs d'attention, avoir un public un petit peu virulent. Nous, je pense, en tant que joueurs, ça nous permet de se canaliser, surtout en district, surtout en coupe.
42 districts et ligues cette saison testent ce dispositif porté par Philippe Diallo, le président de la Fédération française de football.
Ces caméras portatives ont un effet, je l'espère, dissuasif. Ces images pourront servir de preuve pour nos commissions de discipline, voire pour la justice.
Après un bilan en fin de saison, ces caméras embarquées pourraient être généralisées sur les matchs amateurs à risque.
Les Bleus du rugby se réunissent à partir d'aujourd'hui à Marcoussis pour préparer le tournoi Destination qui commencera dans 10 jours contre l'Irlande. Mais mauvaise nouvelle, il y a deux joueurs de La Rochelle, Antonio et Boudéan, qui sont blessés hier soir lors de leur défaite 32-27 à Clermont. Et puis il va y avoir des déçus. C'est aujourd'hui, normalement, que sera dévoilée la liste des Français retenus pour les JO de Milan-Cortina en ski alpin. Mais il y a moins de place que prévu pour les Français. Et certains, comme le multiple médaillé Alexis Pinturault, sont en sursis et pourraient donc ne pas disputer les JO qui seront à suivre évidemment sur RMC.